Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est la fête du corps et du sang du Christ. Pourquoi est-ce que l'Église fête le corps et le sang du Christ? Parce qu'en fait, l'Église célèbre l'alliance entre Dieu et les hommes. Mais une alliance qui peut avoir des conséquences extraordinaires pour chacun d'entre nous. Et il est bon de se rappeler ce qu'est le corps et le sang du Christ. Et puis comment est-ce que cette alliance a peu à peu grandi dans le cœur du peuple? Vous voyez, le peuple criait comme un enfant. Et le peuple criait et appelait son père. Et quand le peuple crie et appelle son père, ça donne exactement la même chose que ce que fait cet enfant en ce moment au fond de l'église. La seule chose qu'il fait, c'est « papa, 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 papa ». Et ce que je vous dis là, c'est une circonstance, bien sûr, j'utilise ce qui se passe dans l'église, mais c'est aussi très profond. Parce qu'au début, on avait perdu Dieu. On est sorti de l'alliance avec Dieu. Il n'y avait pas vraiment d'alliance d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas besoin d'alliance. On était en Dieu, on était dans la Trinité, puis on a quitté la Trinité. Et on avait perdu l'influence de Dieu. Et quand je parle d'influence, c'est bien plus qu'une influence intellectuelle. C'est la puissance de l'amour de Dieu qui pour nous était quelque chose de naturel. Je parle du temps d'Adam et Ève, vous voyez, quand il n'y avait pas eu la faute originelle. Donc le problème de Dieu, entre guillemets, c'était de nous récupérer, de nous aider à vivre de telle manière qu'on puisse être heureux, vous voyez. Et pour l'homme, être heureux, c'est vivre dans une circulation d'amour. C'est vivre d'un amour éternel. Aucun d'entre nous ne pouvons vivre si nous n'avons pas la certitude d'être aimé pour l'éternité. C'est pas possible. Ça nous rend atrocement tristes si on n'a pas conscience d'être aimé. Et surtout, si les gens qui disent nous aimer ne nous aiment que pour un temps ou que pour des circonstances, voyez. Alors qu'est-ce qu'a fait le bon Dieu? Ben, il a agi mosso grosso en deux temps. Au départ, il a pris les hommes comme ils étaient. Et puisque les hommes étaient attachés à leur troupeau, et puisque les bêtes avaient une telle valeur pour eux, et ce qu'on peut comprendre, il a fait en sorte que les hommes prennent l'habitude d'offrir à Dieu quelque chose qui était important pour eux. Offrir à Dieu quelque chose qui était important pour eux. Et ce qui était important pour eux, c'était les bêtes de leur troupeau. Alors qu'est-ce que faisaient les hommes? Et bien, ils apportaient leurs bêtes, et puis le prêtre les sacrifiait, et puis ils le présentaient à Dieu. Et du coup, l'alliance qu'il y avait entre Dieu et l'homme était manifestée de cette façon-là. Il faut dire qu'on partait de loin, parce qu'avant de sacrifier des bêtes, on sacrifiait des êtres humains. Jamais oublier ça. N'oubliez pas Abraham. Abraham et son fils. Ça a fini mal tourner, cette histoire. C'est toujours une histoire d'alliance, vous savez. Quand Dieu arrête le bras d'Abraham, c'est pour lui manifester que sa relation avec Abraham va être encore plus grande et encore plus profonde que l'alliance qu'il était en train de vivre avec son Dieu. Je t'offre mon fils. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour l'instant. Donc, les gens offraient des bêtes, et puis alors le rituel était fait que pour manifester cette alliance qu'il y avait entre Dieu et le Père, on aspergeait le peuple de sang. Imaginez la scène. Comme si je vous aspergeais du sang d'un bœuf que j'aurais sacrifié sur cet autel. C'était à peu près le même genre d'autel, hein. Mais qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il se passait quelque chose au plus profond de l'homme? Ben non. C'est-à-dire que l'alliance qu'il y avait entre Dieu et l'homme était belle, mais elle était, d'une certaine façon, on peut dire, superficielle. Vous voyez? L'homme la renouvelait par un acte de foi, c'était déjà magnifique. Mais il manquait quelque chose à l'homme, parce que du coup, comme l'homme vivait dans le péché originel, toujours l'homme avait la tendance à dévier de la route, quoi. C'est comme si vous étiez sur l'autoroute à 130 km/h. Et que votre voiture, elle chasse sur la droite en permanence. Vous voyez, vous êtes en permanence obligé de... Et alors le peuple, toute l'histoire du peuple d'Israël, c'est toute l'histoire d'un peuple qui ne tient pas la route, quoi, en gros. Le peuple ne tient pas la route. Donc il a fallu à chaque fois que Dieu l'aide à tenir, vous voyez. Lisez l'Ancien Testament. Jusqu'au jour où Dieu envoie son Fils. Et où le Fils meurt pour le peuple. Et là, c'est plus l'agneau qui devient un signe extérieur. L'agneau devient une manifestation, une action intérieure. C'est-à-dire qu'en mourant sur la croix, qu'est-ce qui se passe ? Notre humanité est connectée à la divinité. Notre humanité touche la divinité. Et contrairement à ce que pensaient les anciens, la divinité n'est pas salée, n'est pas salie par l'humanité. Mais au contraire, l'humanité devient divine, vous voyez. Imaginez deux bacs d'eau, d'accord ? Vous prenez un bac d'eau pure et un bac d'eau boueuse. Ça va, vous y êtes ? Vous prenez le bac d'eau boueuse et vous mettez dans l'eau pure. Qu'est-ce qui se passe ? L'eau devient sale. C'est ça qu'on a dans la tête, nous. Comme Jean de la Croix qui ne prend pas les mains de la Vierge parce qu'il a les mains sales. Allez voir dans l'histoire de Jean de la Croix. Eh bien, avec ce changement de paradigme, avec ce changement, quand vous mettez l'eau boueuse de notre humanité dans l'eau pure de la divinité, c'est l'eau boueuse qui devient pure. Fastoche. C'est ça qui se passe, vous voyez. Et quand on est baptisé, eh bien ce phénomène de purification, on le porte à l'intérieur de nous. Par la présence de la Trinité. Ça, en gros, c'est ce que j'essayais de vous dire il y a quelques jours, quand on a fêté la fête de la Trinité. Sauf que, aujourd'hui, ce qu'on fête, c'est la réactualisation à chaque messe de ce mouvement incroyable. Et chers frères et sœurs, quand l'homme fait une action et qu'il la donne à Dieu, ça s'appelle un sacrifice. Un sacrifice, c'est pas perdre un bras. C'est que mon bras devient divin. Vous voyez ? C'est ça un sacrifice. Un sacrifice, c'est un acte qui devient sacré. C'est-à-dire qui est rempli de Dieu. C'est l'eau boueuse qui est plus boueuse, qui est purifiée. Eh bien, le Saint-Sacrement, quand le prêtre dit « par lui, avec lui et en lui, vous ferez attention tout à l'heure », eh bien à ce moment-là, c'est exactement ce qui se passe là. Ça s'appelle un sacrifice non sanglant, c'est-à-dire c'est un acte humain, bah oui, parce que je suis humain. Mais à ce moment-là, j'ai les pouvoirs de Dieu, figurez-vous, et j'en suis pas fier. Mais je présente le Fils au Père, et en présentant le Fils au Père, le Père reçoit le Fils et chacun d'entre vous. C'est pour ça que je le fais lentement, parce que j'ai un petit cerveau et je pense à chacun d'entre vous, j'essaye en tous les cas. Et vous voyez, le sacrifice est renouvelé, c'est-à-dire que et vous êtes pris avec le Fils. Vous êtes pris. Si à ce moment-là, vous pensez à votre poulet de midi, aucune importance. Ne vous inquiétez pas, d'ailleurs, je vous conseille, vaut mieux, enfin, faites ce que vous voulez, mais... Parce que souvent les gens me disent, faut que je sois concentré. Non, ne sois pas concentré, sois détendu. Ce n'est pas ton job, c'est le mien. Je te prends comme t'es. Je vous prends, même si vous pensez à tant de gudule à ce moment-là. Et vous êtes pris en Dieu. Et quand la personne humaine est prise en Dieu, il y a forcément une influence. Forcément. Du coup, vous ne ressortirez pas de cette église comme vous y êtes entré. C'est sûr et certain. Même si pendant toute la messe, vous avez pensé à votre voisine de gauche. C'est sûr et certain. Eh bien, ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est ce tempo, c'est ce moment unique où Jésus est présenté au Père. Et dans sa sagesse, l'Église a permis que ce moment unique nous puissions le vivre sur une longue durée par l'exposition du Saint-Sacrement. C'est ça l'adoration eucharistique. C'est ça l'adoration eucharistique. Quand vous avez Jésus là exposé dans l'ostensoir, ben, c'est Jésus qui s'offre au Père. C'est une photo, c'est un instantané de la messe. Vous voyez ? Alors, évidemment, mais je vous recommande vivement, non seulement à la messe, de faire très attention à ce moment qui pour moi est le principal de la messe, au moment où vous êtes offert au Père, et puis à la fin de la messe, ben de soigner particulièrement l'action de grâce, vous voyez. J'en vois qui se précipitent tout de suite vers la Sainte Vierge. C'est bien, faites-le si vous voulez, faites-le. Mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous tourner vers son Fils. Mais surtout, prenons conscience que le Fils, à ce moment-là, nous a tourné vers le Père et que nous sommes dans le Père. Quand vous avez mangé Jésus, vous êtes dans le Père. Et quand vous êtes devant l'Eucharistie, quand vous êtes à l'adoration, qu'est-ce qui se passe? Apparemment rien. Il y en a même qui disent qu'ils s'embêtent. Est-ce que quand vous avez du linge mouillé sur une corde, le linge s'embête? Certainement, mais en même temps, il sèche. Parfois, le Seigneur agit au-delà de notre intelligence, au-delà de notre sensibilité. Parce que si on commence à entrer en dialogue intellectuel ou dans notre sensibilité, si on ressent trop les choses avec le Seigneur, mais on risque d'être plus préoccupé par nous-mêmes que par lui. Et c'est pour ça qu'on ne sent rien à l'adoration. Mais en fait, il est là quand on l'adore dans son corps eucharistique. Il est là et évidemment, il nous purifie. Exactement, l'Écriture dit, il purifie notre conscience de ce qui l'inquiète. Il purifie notre conscience de ce qui l'inquiète. Il nous réoriente dans sa paix. Non seulement ça, mais du coup, il nous transforme. Il touche ce qu'il y a de plus profond en nous, notre intelligence, notre volonté, notre mémoire. Et il unifie notre être. Évidemment, plus on va passer de temps devant le Saint-Sacrement, et plus on va ressembler à cette unité qu'on a devant nous. Et plus on va aimer, et plus on va ne vouloir qu'aimer finalement d'une certaine façon, vous voyez. Première influence, donc, à mon avis, c'est d'abord une purification de notre cœur et un fortifiant incroyable. Et on en a besoin, chers frères et sœurs, parce qu'autour de nous, ça n'arrête pas dans tous les sens. Les gens sont violents, énervants, bruyants, parce qu'on nous balade d'un côté et de l'autre. Nos émotions sont sans cesse sollicitées. Les petits appareils rectangulaires que vous avez dans votre poche sans cesse vous distraient. Et on finit par plus être intéressé par ce qu'il y a là-dedans que pas. L'autre jour, je voyais, pas plus tard qu'hier, je croisais une famille. Toute la famille regardait le téléphone portable, n'y parlait pas entre eux. Je me suis dit quand même, c'est couillon. C'est dommage. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui fait qu'on est plus attiré par ça que par la relation humaine? C'est qu'on n'est pas assez tabernaculaire. On n'est pas assez tabernaculaire. Vous voyez le tabernacle avec Jésus dedans? Mais tout à l'heure, ça sera pareil pour vous. Vous serez des tabernacles. Et si on a vraiment conscience de cette vérité, on n'a plus besoin de ces appareils. Bien sûr, ils sont très pratiques, je ne le dis pas, mais vous saurez hiérarchiser les choses. Il faut reconnaître, chers frères et sœurs, qu'on a beaucoup de mal à mettre les choses en place dans leur hiérarchie les plus importantes. Et la deuxième chose, mais je ne veux pas être trop long, qui est vraiment très importante, dont on ne se rend pas compte, c'est que plus vous allez passer du temps devant Jésus hostie, plus vous allez manger Jésus hostie, et plus vous allez être protégé. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « Père, imposez-moi les mains pour me délivrer de Satan. » Comme si vous n'aviez pas la Trinité en vous. C'est très rare les gens qui sont possédés. Ben, le démon, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne autour de vous comme une ville. Vous êtes comme une ville. Le démon, il tourne autour de vous. Et quand il y a une fragilité dans votre personnalité, ben, il n'arrête pas de titiller la fragilité. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Donc oui, évidemment, on prie les uns pour les autres, évidemment. Mais je n'ai pas à vous délivrer parce que vous n'êtes tout simplement pas envahi. Vous êtes surtout envahi par la Trinité. Et quand vous communiez au corps du Christ, non seulement vous êtes envahi par la Trinité, mais en plus de ça, vous avez Jésus qui agit extrêmement puissamment. Et vous n'avez rien à craindre. Mais rien. Il faut absolument qu'on prenne conscience de cette vérité. Ne soyez pas affolés par les guêpes qui tournent autour de vous en permanence. Quand on est pris dans un essaim d'abeilles, la seule façon de faire, c'est de ne pas bouger. Il ne se passera rien. Tranquille. Jésus, Eucharistie, nous protège. Il nous garde. Il nous garde en présence de la Trinité. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. Voyez, chers frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est qu'avec Jésus, Eucharistie, on a tout. On a tout. Pour moi, un des plus grands exemples de cet amour eucharistique, c'est Jean-Paul II. Jean-Paul II. Tous les problèmes qu'il avait, il les résolvait en allant voir l'Eucharistie, en allant voir Jésus Eucharistie. Il avait un bureau qu'il installait devant le tabernacle et il travaillait devant le tabernacle. Et quand c'était trop chaud, il s'allongeait devant le tabernacle. Et combien de fois les sœurs qui s'occupaient de lui l'ont vu allonger les bras en croix devant le tabernacle. La solution à nos tristesses, la solution à nos peurs, la solution à nos angoisses, c'est bien souvent Jésus Eucharistie. Et vous voyez, je ne suis pas en train de vous faire toute une théorie autour du Saint-Sacrement, je suis en train de vous parler de choses extrêmement concrètes à mettre en œuvre. Demandons à la Sainte Vierge de nous rendre tabernaculaires. Demandons à la Sainte Vierge de nous aider à venir voir souvent Jésus Eucharistie. Demandons à la Sainte Vierge de savoir être patient à l'adoration. Demandons à la Sainte Vierge de savoir faire de nous un petit peu comme des chiens, vous savez, qui sont assis au pied de son maître. Le chien, souvent, il est devant le feu, il est là. Le feu brûle et le chien se chauffe. À l'adoration eucharistique, c'est ce que le Seigneur nous demande, rien de plus. Viens, je vais te donner mon feu, je vais te purifier, je vais te rendre fort. Fort. De ma force. Amen.